Voix enchantée.
Barry Jenkins, qui est un scénariste et réalisateur américain.
Léonie Pernet.
Booba. Je voudrais dire sans rien y ajouter. Je suis.
Une émission de Louisa Léo, une fois par mois à 18h sur Radio Campus Paris. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans Voix enchantée, l'émission qui dresse le portrait radio d'un ou une invitée à travers ses goûts artistiques, un texte personnel et le partage en fin d'émission d'une bribe de phrase marquante entendue dans son entourage ou l'espace public. La cinquième saison continue avec pour invitée du mois de mars 2026, Clara. Bonjour Clara.
Bonjour, bonjour Louisa, bonjour à tous.
Et merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux commencer par nous dire un peu ce que tu aimes dans la vie, ce que tu fais ?
Alors, moi je suis doctorante en histoire de l'art et plus précisément en muséologie, qui est un peu une sous-discipline. C'est-à-dire que je travaille vraiment sur l'institution et les musées. Et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est l'idée d'utopie, l'idée d'espace. Qu'est-ce que c'est le musée comme institution dans notre monde contemporain ? Quels sont ses défis ? Quels sont ses enjeux ? Donc voilà, je travaille sur ça et sinon, du coup, j'ai un intérêt assez fort pour l'histoire de l'art. Je pense qu'on va en parler pendant l'émission.
Trop bien. Eh bien, on commence tout de suite avec ton choix d'artiste. Comme chaque mois, l'émission, elle commence par la question d'un ou d'une artiste qui, toi, te passionne, en tout cas, dont le travail t'intéresse et la personnalité peut-être aussi. Est-ce que tu peux nous dire qui tu as choisi ?
Alors, j'ai choisi Yayoi Kusama, qui est une artiste assez connue, hein, maintenant une artiste japonaise, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de parler du début de sa carrière, en fait, et de ce qui s'est passé un peu avant les années 80, avant qu'elle devienne un produit elle-même, parce qu'il y a un moment où, dans son œuvre, elle a commencé à vendre son image, etc. Bon, pour en parler après. Et moi, c'est une artiste que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup la peinture qu'elle fait. C'est vraiment le pan le moins connu de sa carrière, c'est la peinture. Mais ça, j'ai vécu un an à Tokyo. Et donc, j'ai découvert là-bas sa peinture parce qu'en fait, elle ne bouge pas beaucoup hors du Japon, sa peinture. Contrairement à ses installations qui sont très connues. Mmh. Et ça, j'aime beaucoup les installations parce que moi, dans les musées que j'étudie, qui travaillent beaucoup avec l'espace, avec le paysage, les installations d'Yayoi Kusama, elles reviennent beaucoup. Mais oui, la peinture, c'est encore une fois, c'est quelque chose avec des couleurs qui sont toujours vives mais profondes et avec des formes. Et en fait, tout le principe de Yayoi Kusama, pour quand même expliquer d'où vient son art, c'est que c'est une artiste qui a commencé très jeune à avoir des hallucinations. Sa peinture, mais aussi ses installations, viennent de ses hallucinations. Donc s'il y a beaucoup de poids... quand je dis poids, pardon, des petits poids, des ronds en fait. Dans sa peinture, ça vient de ses hallucinations. Il y a beaucoup de choses qui ressemblent à des cellules. Et elle explique que c'est vraiment ce qu'elle voit quand elle a des hallucinations. Et donc on retrouve ça dans sa peinture, dans ses installations. Elle fait aussi des sortes de chambres où on rentre et tout d'un coup, il y a des poids partout. Et en fait, on est vraiment projeté dans son hallucination. Donc ça, c'était très intéressant. Et ses performances, elles sont aussi un peu oubliées maintenant, mais c'est ce qu'elle faisait de plus politique. Donc c'est dans un contexte des années 60 à New York, où la performance, c'est le moyen de faire des happenings, moyen de protester contre la guerre du Vietnam.
Et toi qui es passionnée par les musées, l'espace, etc., au Japon, à Tokyo, t'as vu du coup une exposition d'elle ?
Alors elle a un musée.
Ah, elle a carrément un musée.
Elle a un musée et c'est un musée qui, avec des expositions, que des expositions temporaires, il n'y a pas de collection permanente, donc elle fait tourner. Mais surtout dans les musées, moi j'étudie un musée au Japon qui s'appelle Benessi Art Site Naoshima, donc qui est une île musée. Mmh. Donc elle a beaucoup d'œuvres dans ce musée qui sont en plein air. Et ça, vraiment, c'est assez passionnant. Notamment, elle a une œuvre dont j'aimerais bien parler, qui est Narcissus Garden. C'est ce donc jardin de Narcisse. Et en fait, c'est plein de boules qui sont miroirs, qui ont un revêtement un peu aluminium, dans lequel on se reflète. Et donc, quand un spectateur se penche, évidemment, il renvoie son propre reflet. Et donc, c'est vraiment un abat. On peut y avoir 300 boules. Et donc, la première fois que cette œuvre a été exposée, c'était à la Biennale de Venise en 1966. Et donc, c'était un happening, encore une fois, parce qu'elle n'était pas invitée à la Biennale. Mmh. Et donc, elle a déversé dans les canaux de Venise ses boules. Et voilà, c'était assez impressionnant. Et ce que je trouve intéressant, c'est que encore aujourd'hui, donc 50 ans après, cette œuvre, elle marche toujours aussi bien. Parce qu'en fait, cette œuvre, maintenant, elle est dans plein de musées, c'est devenu une œuvre en série. Et elle marche bien parce qu'elle elle ancre dans le paysage assez facilement. Donc maintenant, en plus, il y a toutes les choses, Instagram, etc. C'est facile, c'est une œuvre avec laquelle qu'on peut s'approprier, on se prend en photo dedans, etc.
On l'écoute parler des valeurs, pour le coup, de paix et d'amour qui habitent son art. Elle parle en japonais dans cette archive, c'est assez court. Et c'était diffusé par la chaîne du musée de Louisiane aux États-Unis en
2015。人間への平和と愛への愛好、そして戦争や、そうか、テロ、そういったものに対する人間の拒否観念、そういったものを無限に私の中に中に入れておきました。そしてそれらを見た皆さんには非常に 自分たちもそういうことを考えておるという大きな反響を呼びまして、私は無限の小説、そして無限のファッション、無限の美術、そういったものをたくさん作りましたが、それと同時人間の最高の欲望である生命感の美しさ、それから宇宙への神秘の 素晴らしさ、そういった数々のものを私は芸術の中に汲み取り、自分自身の人生を築いてまいりました。
J'ai exprimé une dévotion infinie à l'amour de la paix et le refus de la guerre et du terrorisme par l'amour infini de l'humanité. Les spectateurs ont apprécié mon travail et c'est devenu une sensation. J'ai créé une quantité incroyable de littérature infinie, de design, de mode infinie, d'œuvres d'art infinies. Et en parallèle, j'ai établi ma vie en créant mon art qui traite des désirs très forts des êtres humains. La beauté de la vie, par exemple, et le mystère merveilleux de l'univers. Je trouve ça très beau ce qu'elle dit. Et ce qui m'intéresse, c'est à la fois le côté infini. Et tu l'as dit, avec tous ces poids, toutes ces boules. Enfin, vraiment, il y a un côté, on est des particules dans l'univers, quoi. Et à la fois le côté très simple de j'ai créé ma vie en m'intéressant à la beauté du monde. Est-ce que ça t'inspire, toi? Tu le ressens dans son art?
Oui, et en fait, c'est assez intéressant que tu aies choisi cette citation parce que ça va assez bien avec ce dont je voulais parler aujourd'hui d'elle, parce qu'en fait, je pense qu'on la connaît beaucoup pour du coup son côté pop art, les citrouilles, mais aussi toutes les choses phalliques qu'elle a fait pour parler des violences sexuelles, etc. Et donc, on la connaît aussi pour son côté un peu trash, et en fait, elle a aussi ce côté beaucoup plus doux, très intéressant. Le côté infini, le côté des répétitions, c'est vraiment quelque chose qui est très très beau dans son œuvre, très très beau dans ses installations, où du coup, on se place dans cet infini grâce à ces installations.
Merci beaucoup. On continue avec ton coup de cœur musical. Clara, on continue en musique avec ton choix du moment, du coup de cœur musical. Donc c'est un morceau qui te plaît particulièrement, qu'on va écouter tout de suite. Mais est-ce que avant, tu peux nous annoncer le nom de l'artiste et le titre du morceau?
Alors, l'artiste, c'est Nujabes et le titre du morceau, c'est Battle Cry.
Mind at peace, the world out of order, this and then the heat, life gets colder.
Alors Clara, pourquoi ce morceau ?
Alors, en réalité, c'est pas vraiment un coup de cœur du moment, c'est un coup de cœur de toujours, plutôt.
De toute ma vie.
Bah, vraiment, pour moi, c'est un artiste qui s'écoute en boucle. Donc, en fait, toutes ces chansons, il y a un fil conducteur et c'est un artiste que j'écoute à la fois quand je travaille, à la fois quand je marche, quand je suis stressée. C'est vraiment un artiste qui me détend. Et là, par exemple, quand j'ai choisi la chanson, du coup, j'ai vraiment essayé d'écouter les paroles. Je me suis rendu compte que j'avais jamais vraiment écouté les paroles.
Mmh, ça arrive.
Mais
ouais.
Voilà. Et du coup, et d'ailleurs, ça m'a déplu comme expérience. J'étais en mode, ah, je voudrais garder le côté flou de la chanson. Mais j'ai choisi cette chanson-là en particulier dans son œuvre parce que en fait, c'est la bande originale d'un animé qui s'appelle Samurai Champloo et c'est comme ça que je l'ai découvert en fait. C'est en regardant cet animé. C'est un animé de samouraï, un genre qui s'appelle le Shambara.
On est encore au Japon.
On est encore au Japon, c'est vrai. J'y ai pensé en faisant les deux choix. Je me suis dit que ça allait faire la personne un peu trop obsesse du Japon. Mais bon, voilà. L'animé, il mêle cet univers avec les codes vraiment traditionnels du film. C'est un film du genre de samouraï. Enfin, ça reprend ces codes-là. Et à la fois, il voulait avoir une atmosphère hip-hop. Et donc, il a choisi cet artiste dont la particularité, c'est de mêler le jazz et le hip-hop.
Ouais.
Donc ça, on l'entend bien dans la chanson. Et donc, voilà, c'est des chansons qui m'inspirent la nostalgie. Mais aussi, je sais pas, là, on est au début du printemps. Elle a un peu ce côté bourgeonnant où on regarde. Oh, c'est sympa, il y a des fleurs qui éclosent. Enfin, voilà. C'est un peu tout ça que m'inspirent les chansons de Nujabes.
Et c'est marrant parce que avec ton artiste, enfin ton choix d'artiste, on avait les motifs à répétition, des couleurs et tout. Et puis là, je trouve qu'avec ce morceau, bon, hip-hop, quoi, il y a un côté aussi un peu redondant et peut-être qui participe au fait d'être apaisant.
C'est le rythme du jazz surtout qui fait ça. Mais c'est vrai, la voix, elle est assez monotone aussi. En fait, le japonais, c'est une langue assez... Ah non, là, c'est en anglais, pardon. J'allais dire le japonais, c'est une langue assez monotone. Il n'y a pas trop d'accent, comme le français.
Après, lui, il est japonais, donc peut-être qu'il s'inspire aussi de la diction et tout ça.
Mais le fait est que pour les français et inversement pour les japonais, ce n'est pas la langue la plus dure à apprendre, le japonais à l'oral, parce qu'on n'a pas de... Pareil, on est assez monotone, on n'a pas trop de tonalité, comme le chinois, par exemple, ou l'espagnol.
Donc, monotonie apaisante, quoi, finalement.
C'est ça.
On passe à ton partage de texte. L'étape un peu centrale de l'émission, c'est le partage d'un texte que toi, tu as écrit. Ça peut être un texte qui date d'il y a des années, ça peut être un texte écrit pour l'émission, n'importe quelle forme, en fait, littéraire. Qu'est-ce que tu vas nous lire, là, aujourd'hui ?
Moi, je travaille plutôt sur... la vision, j'ai moins le truc de la littérature. Mais je me rappelle que ça m'amusait beaucoup quand même. Que d'ailleurs, je parlais souvent des tableaux comme des poésies où il fallait chercher, trouver les clés, les métaphores, etc., etc. Et donc, du coup, j'ai choisi un texte qui était un exercice quand j'étais en première où je devais écrire quelque chose en bande alexandrin. Et donc, je n'ai pas vérifié exactement si ça faisait toujours 12, mais je trouvais le texte rigolo.
Trop bien, ben merci beaucoup, on t'écoute.
Ça s'appelle « Le sommet des chats ». Donc, sous la chaise grise se cache un beau trésor, assis comme un baron, un chat tacheté d'or. D'un coup brusque jaillit et miaule doucement, il file entre mes jambes et s'enfuit prestement. Me regardant comme un enfant en bas âge, sommes-nous si fous qui nous paraissent aussi sages? C'est à se demander qui mérite l'asile, le chat errant ou bien l'homme au dessein stérile. Le suivant, j'assiste à une réunion de chats, mal effet, disent-ils, l'homme a pourri la cime, libéralisme, capitalisme, laxisme. Et il jure alors dans un dernier crachat que demain c'est le grand soir et le but ultime, mettre les coupables en cage, c'est la maxime.
Merci beaucoup Clara pour ton texte, entre chat et homme finalement. On continue maintenant avec ton choix d'œuvre phare, donc c'est-à-dire que parmi tous les types d'art possibles, tu as dû en choisir un seul et encore plus précisément une œuvre. Mmh. Qu'est-ce que c'est ?
Alors l'œuvre, c'est une œuvre de Piet Mondrian qui s'appelle L'Arbre Rouge et qui est une œuvre qui date de 1909, je crois.
C'est un tableau.
C'est un tableau, pardon, oui. Pour moi, c'était assez évident que j'allais choisir un tableau. Bon, c'est quand même ma matière de prédilection. Mais après, par contre, c'était vraiment dur d'en choisir un. Puis après, j'ai eu cette évidence d'avoir ce tableau qui m'a, qui est pas mon tableau préféré. J'avais trop de mal à choisir entre mes tableaux préférés, mais qui est un tableau qui a beaucoup donné, m'a beaucoup donné de, en fait, qui m'a fait comprendre ce que c'était, pourquoi j'aimais l'art.
Ok, c'est pas rien.
Oui.
C'est même beaucoup.
C'est beaucoup, ouais. Mais je pense qu'avant, j'aimais l'idée de l'histoire de l'art. Je trouvais ça sympa, je trouvais ça beau, voilà, je trouvais ça fun, mais je savais pas vraiment ce que j'aimais. Et en fait, Piet Mondrian, on le connaît pour les grilles, je sais pas si tu mm-hmm. vois, enfin, les carrés rouges, jaunes, quelque chose d'extrêmement abstrait, très très poussé dans l'abstraction. Et donc ce tableau, il est pas du tout, enfin si, c'est un premier pas vers l'abstraction, parce que voilà, il y a quand même des aplats de couleurs. Du coup, pour décrire un peu le tableau, c'est un tableau avec un arbre rouge dans un ciel bleu, avec des taches orangées, roses. C'est comme un peu un coucher de soleil sur un arbre, et donc l'arbre, il est un peu figuratif. Donc on devine très bien que c'est un arbre, mais ça reste quand même des craies, et c'est pas réaliste quoi, c'est des traits de crayon, c'est presque un peu naïf comme peinture. Mmh. Et donc c'est pas du tout ce qu'on s'imagine de Mondrian. Mais ce qui m'intéresse dans le tableau, c'est pas ça, ce qui m'intéresse c'est les couleurs. Et je pense que le choc que j'ai eu quand j'ai vu ce tableau, c'était en première année d'histoire de l'art du coup.
Tu l'as vu dans une expo ?
Non, je l'ai vu dans un cours, dans une salle sombre
projetée
de Tom Biak,
avec
un PowerPoint affreux.
Et pourtant, il y a eu un effet sur toi.
C'est ça. Et après, donc, je l'ai re-regardé. J'y pense assez souvent à cette œuvre parce que j'ai compris à ce moment-là, du coup, que ce que j'aimais dans l'art, c'était la couleur. Je me suis rendu compte que tous les artistes que j'aimais avaient ça en commun. Donc voilà, il y a eu Mondrian, puis après il y a eu Chagall, il y a eu Klimt, il y a eu Yves Klein, il y a eu Yayoi Kusama, en espèce de généalogie un peu absurde de l'histoire de l'art, parce que bon, c'est pas du tout une généalogie qu'on trace normalement. Mais ils ont tous un peu ce même type de couleurs, qui sont des couleurs profondes, assez vives, mais pas paternes. Voilà. Par exemple, j'aime pas du tout les carrés de Mondrian. Enfin, je veux dire, ça me parle moyen. Quoi. Mm-hmm.
Pourtant, les couleurs peuvent être vives, mais c'est pas la même profondeur.
Elles sont pas profondes, ouais.
Ouais. Ok.
Et surtout, elles sont pas très rêveuses, elles sont pas très... voilà.
C'est marrant que tu parles de rêve, parce que c'est vrai que cet arbre, il est très majestueux, dans ses couleurs un peu profondes, comme tu dis, mais il y a aussi un côté un peu sombre, j'ai l'impression de... Enfin, peut-être pas sombre en mode cauchemar,
non,
mais en tout
mais
cas,
si,
d'univers
y a du noir,
inconscient.
Il y a un gradé vers le bleu foncé.
Exactement.
Au bout, il y a du mouvement aussi. On s'imagine qu'il y a du vent dans cet arbre.
Et est-ce qu'il te raconte quelque chose ou pas forcément ?
Quand même. C'est pas juste les couleurs, c'est effectivement parler de l'ambiance. Mm-hmm. Il est un peu romantique, ce tableau.
Ouais, et aussi, ça me fait un peu penser au Japon, même si on n'est pas au Japon, mais le côté... représentation d'un arbre. Enfin, c'est vrai que dans notre imaginaire, quand on pense au Japon, on pense souvent à des arbres. C'est peut-être pas celui-là.
Oui, c'est plutôt les sakura, enfin les arbres de cerisier.
Ouais. En tout cas, la nature, quoi.
Ouais. Je pense que la première fois que j'ai vu ce tableau, j'avais pas pensé au Japon parce que c'était moins mon truc à l'époque. J'avais du coup 19 ans, je pense, quand j'avais vu ce tableau pour la première fois. C'est vrai. Pour le coup, les couleurs, elles le sont pas du tout. Pour moi, c'est des couleurs un peu plus... méditerranéenne, peut-être. Ce bleu un peu profond de la nuit.
J'ai cru que t'allais dire méditative.
Non. Non.
Et pour... peut-être.
Peut-être. Non, tout peut être méditatif en soi. mais oui. En tout cas, c'est poétique. Mais oui, ça me fait plus penser à une sombre nuit dans le sud, en Andalousie, je sais pas, qu'au Japon, je crois.
Mm-hmm. Merci. On termine l'émission avec ta bribe de phrase. Comme chaque mois, on clôt l'émission avec un petit pas de côté. C'est une bribe de phrase que tu as pu entendre autour de toi, dans ton entourage proche ou alors carrément dans l'espace public, que ce soit les transports, les cafés, les parcs, pourquoi pas avec le printemps qui arrive. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'a marqué dans ce moment-là de vie et quelle est cette fameuse phrase ?
Alors, j'ai choisi une phrase qui est un peu une répétition dans ma vie. Donc, en fait, c'est une blague de mon grand-père qui, à chaque fois qu'on sortait de l'eau, nous disait « et l'eau, elle était mouillée » ou « elle était bien mouillée, l'eau ». Et en fait, ça paraît une blague lourde, une blague de grand-père, mais il les disait toujours avec une telle innocence renouvelée à chaque fois qu'il faisait cette blague que c'est une blague qui m'a toujours touchée. Et puis voilà, c'est l'absurde, en fait. Il avait un humour qui se caractérisait beaucoup par l'absurde. Il y en avait plein d'autres, des blagues comme ça. Mais je pense qu'il a fait cette blague 20 ans, sans aucun épuisement. Et en fait, c'est pas tant la phrase en soi que juste cette phrase que voilà, maintenant il est décédé, mais j'entends toujours parfois cette phrase quand je sors de l'eau. Maintenant je la fais aussi, je me dis, est-ce que je vais finir ma vie en faisant cette blague?
Tu transmets l'héritage du grand-père, ok, trop bien.
Et c'est un peu un témoignage de son humour, ouais, c'était quelqu'un d'extrêmement drôle.
On finit avec donc une touche d'humour, d'hommage aussi au grand-père et le fait que ce soit quelque chose qui est répété. Donc on est encore un petit peu sur la répétition. Merci beaucoup Clara d'avoir été la voix enchantée de mars 2026. Peut-être qu'on peut dire à bientôt en japonais si tu sais, ou alors merci.
Merci, c'est arigato gozaimasu.
À la réalisation, c'était Rosalie Bern. Et en stage de troisième aujourd'hui avec nous en régie, c'était Augustine. On se retrouve le mardi 7 avril à 18h sur Radio Campus Paris et quand vous voulez un podcast sur le site de la radio et Spotify.